Amen. Merci Carly. Merci, en tout cas, ça me fait plaisir d'être là ce matin pour apporter la parole ce matin. Je suis très heureux d'être de nouveau là parmi vous. D'ailleurs, j'étais, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais absent pendant 3 semaines pour des questions de santé. Et donc, je n'ai pas pu prêcher. Donc, les prochains dimanches, pendant 3 dimanches, je vais prêcher. J'espère que vous supporterez mon retour. Voilà, donc j'avais envie de commencer ce message par vous partager quelque chose de personnel. J'ai été, c'est vrai, à l'arrêt. Je n'ai jamais été aussi longtemps en pause, à l'arrêt pendant 3 semaines. Et vous savez, quand on est dans ce monde où tout va vite, où il y a beaucoup de choses, c'est presque long vers la fin, mais c'est nécessaire des fois de s'arrêter. Le Seigneur nous parle. Et le Seigneur m'a parlé particulièrement quelquefois, personnellement, et j'ai vécu une expérience particulière où j'ai ressenti, on le sait, ça fait partie de notre profession de foi, de notre fondement de la foi. Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit et Jésus revient. Mais je l'ai expérimenté. Vous savez, quand on le sait, quand on le vit, c'est 2 choses différentes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment, vraiment été visité par le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je reviens. Et ça a été vraiment très, très fort comme sentiment, comme réalité, je reviens. Et j'étais allé acheter même un livre pendant ma convalescence dans une librairie. Et la femme regarde, elle dit, en partant, n'oubliez pas, Jésus revient. J'ai dit, waouh, j'ai dit, Seigneur, tu veux me dire quelque chose? Et ce qui a accompagné aussi ce sentiment et cette présence de Dieu, ou vraiment cette réalité que Jésus revient bientôt, c'était que l'Église se prépare et se sanctifie et que l'Église annonce l'Évangile. Parce qu'il y a une urgence qui est là. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être... de vivre ça pour juste le réaliser que Jésus revient bientôt. Quand on voit l'actualité internationale, ce qui se passe, il est dit qu'à la fin des temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et je crois qu'on est bien servi en ce moment parmi les signes. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit aussi un des signes aussi de la fin des temps, c'est la haine pour Israël, la haine pour le peuple juif qui n'a jamais été aussi haute que ces dernières années qui se passent, et on voit vraiment des choses qui se passent. Tout ça, c'est écrit, et on n'a pas à s'inquiéter. Par contre, parmi tous les signes qui peuvent faire un peu peur comme ça, il y en a un qui est positif. Vous savez, c'est lequel? Dans les signes de la fin des temps, vous savez quel est le signe qui marque le retour de Jésus, qui est positif? C'est l'annonce de l'Évangile. Il dit que Jésus ne reviendra pas tant que l'Évangile ne sera pas annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et si on regarde l'histoire de l'Église, le premier continent qui a été évangélisé, c'est l'Europe. Et quand on regarde missiologiquement, l'Évangile n'a jamais été aussi loin. On voit des peuples qui ont été atteints par l'Évangile, et on voit que ceux qui ont besoin d'être atteints par l'Évangile, c'est qui? C'est l'Europe. Parce que l'Europe s'est déchristianisée. Et le dernier grand champ, c'est de là où c'est parti. C'est l'Europe. Vous savez, en missiologie, il y a des gens qui se lèvent pour partir à l'étranger, qui étudient la langue, qui étudient le peuple, qui essaient de contextualiser l'Évangile dans la culture, dans la façon qu'on comprend le peuple. C'est extraordinaire, ils donnent leur vie pour cela. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas pour ici? Pourquoi on n'est pas tous des missionnaires à être appelés à dire, mais comment je peux rejoindre cette génération ? Qui n'est plus la génération d'il y a 50 ans. Le monde a changé. Comment avoir un évangile pertinent pour cette génération? Et est-ce qu'on est prêt à faire ce travail missiologique de dire qu'est-ce qu'est la société? Comment ils comprennent? Qu'est-ce qui a évolué? Comment maintenant rendre pertinent le message de l'évangile? Alors ce matin, j'avais vraiment ça sur mon cœur à vous partager. Et je vous invite à lire un passage dans Matthieu, au chapitre 9 et les versets 35 à 36. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. On voit que Jésus est en marche. L'Église est en marche, est en mouvement. Elle n'est pas seulement assise, mais elle est en marche. Et il enseignait dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion. car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je crois que c'est un texte qu'on connaît bien. Si ça fait longtemps qu'on est chrétien, qu'on lit la parole, c'est un texte qu'on connaît. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'avait jamais entendu « La moisson est grande, priez pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Lève la main. Non, on va dire, tous ceux qui savent, qui ont déjà entendu ce verset, on ne va pas discriminer les pauvres qui n'ont pas entendu. Lève la main. Qui c'est qui a déjà entendu ce verset? Voilà. Voilà, je pense que c'est une majorité au milieu de nous. Mais je trouve qu'il y a une manière de comprendre ce verset. On l'a tellement entendu qu'on s'en est même habitué. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce texte. Jésus nous dit, la moisson est grande. En fait, il est en train de nous dire, la moisson est là. La moisson est là, c'est une affirmation. C'est pas peut-être qu'il y a de la moisson, peut-être qu'il y a des gens, peut-être la moisson est là. La moisson est grande, elle est là. Et parfois, l'Église, on est là, on se dit, mais il n'y a pas beaucoup de monde à l'Église. Il y a des chaises vides. Ils sont où? Il faudrait les remplir, ces chaises. Et on est là, on fait des efforts pour remplir nos chaises. Mais vous savez où sont les chaises où les gens sont assis? Ben, ils sont dans la société, ils sont dans les bistrots, ils sont dans les lieux où ils sont. Allez à un match de foot, allez à la buvette, il y a du monde, je vous assure. Les chaises sont remplies. Hier soir, on était pour l'anniversaire au Brasseur. On dit, mais où sont les jeunes dans les églises? Mais ils sont là-bas, les jeunes. Ils sont dans ces bars. Qui c'est qui va aller les chercher? Qui c'est qui va leur parler de l'amour de Dieu? Ils ne vont pas venir comme ça du jour au lendemain sur nos chaises. Donc, quelque part, la moisson est là. La moisson est là. Et Jésus nous dit, regardez au-delà de vos murs, la moisson est là, les chaises sont remplies. Amen. Et ce qui est intéressant dans ce passage, parce qu'il est répété dans l'évangile de Matthieu, c'est que Jésus envoie ses disciples en disant cela. On voit que dans Matthieu 9, d'abord, il dit que la moisson est là, puis il les envoie. Et dans Luc 10, c'est le contraire. Il les envoie et il dit que la moisson est grande. C'est juste un verset, puis il y a une petite, un rajout dans Luc par rapport qu'on va reprendre plus tard, que vous voyez se rajouter. Donc, Jésus n'est pas en train de dire à ses disciples, on va faire une étude de marché pour voir s'il y a des gens que ça intéresserait, pour voir si le message de l'Évangile serait pertinent pour des personnes. Il est en train de dire, non, des personnes sont intéressées par l'Évangile de Christ, son Évangile. Et cette foule qui est là, il le voit déjà, alors que peut-être beaucoup ne sont pas disciples de Jésus dans cette foule, c'est que ses disciples qui sont avec lui, ceux qu'il va envoyer. Quand il voit cette foule, il dit, mais elle est là la moisson. Ce qui me frappe parfois, quand je réfléchis à ces choses-là, c'est que ma vision, pour moi, je parle pour moi, j'ai parfois le sentiment du contraire. Nos églises sont parfois pleines de personnes qui sont ouvertes à l'Évangile. Qui sont ouvertes à l'Évangile, ou des personnes qu'on amène qui sont déjà ouvertes à l'Évangile, sont pleines de chrétiens qui sont ouverts à l'Évangile. Et parfois, on a l'impression que la société est hostile à l'Évangile. Je parle du véritable Évangile, hein. Pas la culture chrétienne ou pas, je ne sais pas quoi, mais par vraiment l'Évangile de Christ. Quand on parle de Dieu, ça va, de spiritualité, ça va, mais quand on parle de Jésus, il y a une opposition. Et parfois, on a l'impression que la société est hostile au message de l'Évangile. Et là, Jésus renverse notre conception, notre mentalité. Il est en train de dire, mais le problème, ce n'est pas la moisson, ce n'est pas tout va bien, il y a du monde qui est prêt à entendre. La difficulté, ce n'est pas à l'extérieur. La difficulté, c'est notre mentalité et c'est notre façon de voir les choses. La difficulté, c'est nous. La difficulté, le problème, c'est pas la moisson. Le problème, c'est qu'il manque des ouvriers. Et là, la difficulté. Et le monde n'est pas hostile à l'Évangile. c'est nous qui en avons peur. C'est nous qui avons peur du monde. C'est nous qui avons peur de l'annoncer. Et le problème, ce n'est pas la moisson, c'est les ouvriers. Et ce n'est pas les rencontres. Il y a plein de bonnes choses que nous vivons, qui sont bonnes et qui sont excellentes. On ne manque pas d'enseignement. On ne manque pas de repas communautaires. On ne manque pas de rencontres entre nous. Ce n'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est des ouvriers qui vont annoncer l'évangile. Et de le voir comme ça, ça bouscule notre façon de voir les choses. Parce que parfois, on pourrait se dire, ouais, c'est le Seigneur qui va faire. Mais le Seigneur veut faire avec des ouvriers. La deuxième chose où Jésus vient bousculer notre façon de voir aussi la moisson, il nous invite à voir la foule comme des potentiels brebis. C'est très intéressant de voir comment Jésus parle de cette foule qui est là devant lui, qui le suit, mais qui n'est peut-être pas encore disciple de Jésus. Oui, potentiellement. Mais Jésus va dire, à la vue de la foule, il eut compassion d'elle parce qu'ils avaient vu comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Vous savez, je suis en train de lire un livre où on a l'impression que c'est une oxymore, donc une opposition, dans le titre. C'est un pasteur pour les non-chrétiens. Je suis en train de lire ce livre, enfin, je l'ai commencé pendant ma convalescence, je vais bientôt finir. Un pasteur pour les non-chrétiens. C'est vrai qu'on a l'impression que ça s'oppose, vous êtes d'accord ? Un pasteur, c'est fait pour les chrétiens, et un évangéliste, c'est fait pour les non-chrétiens. Mais un pasteur pour les non-chrétiens. Il y a tellement de gens qui ont besoin de soins. Tellement de gens qui souffrent derrière la façade qu'on a l'impression où ils sont hostiles, soi-disant. Si on arrive à toucher leur cœur, il y a des gens désespérés qui ont besoin de soins du bon berger. Et vous êtes ces bergers-là. Ah bon ? Vous avez une bergerie qui vous entoure. Vous avez des personnes que le pasteur ne peut pas atteindre. Vous avez des personnes autour de vous sur qui vous avez de l'influence, qui vous écoutent et qui sont prêts à ouvrir leur cœur. Et Jésus est là face à cette foule et il va dire, c'est des brebis. Moi, ça me frappe. C'est un renversement de façon de voir les choses. Parce que pour moi, la brebis, c'est la brebis du Seigneur. Et dans le langage biblique, la brebis, c'est celle du Seigneur, et le bouc, c'est justement celui qui n'est pas du Seigneur. Vous savez, dans la parabole, à la fin des temps où il sépare les brebis des boucs, il dit qu'il mettra les brebis à sa droite et qu'il mettra les boucs à sa gauche. Donc c'est négatif, le bouc. Et Jésus voit la foule, pas comme des non-disciples, mais comme des potentiels disciples. Vous voyez le regard de Jésus ? Il est là pour dire, mais c'est des brebis, parce que potentiellement, il y a des futurs brebis là. Et il les voit déjà. Il vit dans le futur de ce qui va s'accomplir. Vous voyez la perspective de Jésus ? Est-ce que nous avons cette capacité à vivre dans le futur de Dieu pour ceux qui nous entourent ? À les voir comme Dieu les voit. Parce que c'est ça qui va transformer. Si nous vivons dans ce futur vis-à-vis de ces personnes qui nous entourent, alors nous verrons la transformation. Nous verrons l'action de Dieu. Et voilà que Jésus, ici, devient quelqu'un qui est visionnaire. Ce n'est pas le présent qui définit, mais c'est le futur, c'est la façon dont Dieu voit le cœur de ces personnes qui attendent à recevoir l'Évangile. Et ça me fait penser à Paul qui était dans ses voyages missionnaires. J'ai parlé de ça la dernière fois et je continue à développer un peu cette pensée, cette mission que Dieu nous confie. Et Paul, dans ses voyages missionnaires, voilà qu'il arrive à Corinthe et il rencontre une grande opposition. Une grande opposition, même je pense qu'il le décourage. Donc oui, le monde, il y a des combats, bien sûr que c'est difficile. Mais voilà ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, mais ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et il dit, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà qu'il y a des gens qui ne sont pas encore à Christ, mais Dieu dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous voyez le changement de perspective de Dieu ? Quand c'est Dieu qui parle, c'est différent que quand nous on parle. Non, ils ne veulent pas de l'évangile, ils s'opposent. Il n'y a personne qui va se donner. Et voilà que Dieu lui dit, non, j'ai un peuple nombreux. Alors, vous voyez ce changement de façon de voir l'extérieur. C'est vraiment toute une façon différente de voir. Et je pense que Parfois, c'est pas seulement de voir comme ça, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'entre pas dans le fait d'être un ouvrier? Et c'est vrai que je me suis posé la question, je dis, mais qu'est-ce qui fait? La moisson est là, qu'est-ce qui fait qu'on ne se lève pas et qu'on n'agit pas? Alors vous me direz, mais oui, c'est le Seigneur qui fait. Mais soyons vrais un peu. Moi, ça fait des années que je suis chrétien, j'ai amené des personnes au Seigneur, c'est arrivé, j'ai été peut-être le maillon, mais quand je regarde l'Église primitive, je ne vois pas le fruit que l'Église devrait porter. Surtout dans une nation post-chrétienne comme on est actuellement. Et je me dis, mais vous allez me dire, mais oui, on sait tout ça, oui, oui, on le fait, on prie pour nos amis, mais est-ce qu'on porte du fruit comme le Seigneur voudrait qu'on porte du fruit? Et bien sûr que le Seigneur fait une œuvre qui dépasse ce qu'on voit, mais je me pose des questions de fond. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'ouvrier, on ne voit pas plus de fruits? Et je pense qu'il y a un élément de réponse dans ce que Jésus nous démontre dans ce texte que je vous ai lu ce matin. Quelque chose de fondamental que Jésus, qui apparaît dans ce texte, c'est le cœur de Jésus qui est dit qu'il était ému de compassion pour cette foule. Le cœur de Jésus pour cette foule qui souffre était touché dans ses entrailles. Le cœur de Jésus était rempli d'amour. Et il me semble que ce que ce texte nous dit, quand on le lit, il y a un élément fondamental qui est prier donc le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En fait, on pourrait vite foncer en disant « Ah, il faut le faire, en tant que chrétien, il faut que j'aille évangéliser, il faut que je... » Et on pourrait être dans une attitude qui va friser le légalisme et tomber dans des grands légalistes qui sont les témoins de Jéhovah. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils annoncent l'évangile. Hein, ils tractent, hein, ils tractent, ils mettent le pied dans la porte, comme on dit. Mais ils le font par crainte et par peur. Parce que s'ils ne le font pas, il y a un problème. Donc la motivation, en fait, elle n'est pas bonne. Parce que le cœur n'est pas touché. Et là, il me semble que la première chose à faire, c'est surtout pas d'être dans cette attitude-là. C'est d'abord de prier. D'abord de s'arrêter, de prier pour que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers. Et vous savez ce qui se passe quand on prie? Des fois, le Seigneur nous envoie nous. Mais que notre cœur d'abord soit touché. Et je pense que dans notre saison d'église, dans laquelle nous sommes actuellement, nous sommes dans ce mouvement de prière et de jeûne. Et je pense que ce ne sera pas ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Si le Saint-Esprit touche nos cœurs, alors les choses seront faciles. Dieu commence toujours par toucher nos cœurs dans la prière. Tout commence par la prière et par le cœur. Quand on regarde par exemple l'histoire de Néhémie, vous savez, Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, c'est cet homme de Dieu qui est en exil avec le peuple d'Israël. Jérusalem est dévastée. Il est resté quelques personnes qui lui rapportent ce qui se passe à Jérusalem. Voilà ce qui est dit au début de Néhémie. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et du déshonneur, la muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Et on voit que vraiment cette nouvelle n'est pas bonne. Et ça touche le cœur de Néhémie. Voilà qu'est-ce qu'il est dit juste après. On voit qu'il est atteint, il voit cette souffrance, il voit ses besoins. Et c'est comme Jésus qui voyait cette foule, il voit ses besoins, il voit que derrière les masques, les gens souffrent, derrière les portes, derrière les maisons, les gens souffrent. Et voilà ce que Néhémie va dire. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Voilà le premier pas. On veut voir des ouvriers, fonçons pas, prions d'abord. Prions que le maître de la moisson lève et envoie. Et c'est vrai que Néhémie va se lever, en effet, et pas que lui d'ailleurs, mais ce cœur a d'abord été touché par Dieu pour se mettre en route. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et cela est produit et le fruit d'un esprit de prière et de jeûne. Si nous avons faim et soif de voir l'action de Dieu, c'est le bon début. William Booth, c'était le fondateur de l'Armée du Salut. Vous savez, ce mouvement qui a vraiment annoncé l'évangile aux pauvres, qui a commencé en Angleterre, à Londres, dans une période du 19e siècle où il y avait beaucoup de misère, notamment liée à l'alcoolisme, à la pauvreté. Il n'y avait pas les services sociaux que nous avons aujourd'hui. Et finalement, personne ne prenait soin de ces pauvres. Et lui, William, c'était un pasteur comme un autre. Et il y avait plein d'églises à Londres, plein d'églises qui allaient bien, qui étaient remplies et qui avaient même les moyens, une certaine prospérité. Et voilà que ce pasteur-là s'est dit, mais il faut qu'on aille atteindre ces pauvres. Et voilà qu'il est descendu dans la rue, il a commencé à leur annoncer l'évangile, à leur donner, vous connaissez le soupe, savon, salut. Hein. Il a commencé déjà à prendre soin d'eux, à vraiment les aimer inconditionnellement. Le cœur touché par le besoin. Et je ne pense pas qu'il s'est dit, je vais faire un mouvement international qui va aller jusqu'en Suisse et qui va toucher le monde entier. Jamais il s'est dit ça. Lui, il a juste répondu à un besoin. Et voilà qu'il répond à ce besoin. Et d'ailleurs, il disait même, moi, je ne veux pas créer une église. Moi, je veux amener les gens à Christ. Et puis après, dans les églises, ces gens-là iront se remplir les églises, se former, devenir disciples, devenir matures, étudier la parole, devenir des chrétiens matures. Lui, il voulait juste toucher les gens. Il ne voulait pas être un mouvement ecclésial. Et voilà que, d'ailleurs, dans l'Armée du Salut, encore aujourd'hui, ils ne baptisent pas et ils ne donnent pas la scène. Parce qu'ils ne se considèrent pas comme une église. D'ailleurs, c'est plutôt comme une caserne militaire, hein, des officiers de l'Armée du Salut. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils pensaient. Et moi, je me suis posé la question, comment ça se fait que parmi tous ces pasteurs, il n'y en a qu'un seul qui a eu ce cœur? Il y avait plein de pasteurs d'églises à cette époque-là. Il y avait plein d'églises qui pouvaient faire ce travail. Comment ça se fait qu'il n'y en a eu qu'un seul qui a fait ça? C'est des vraies questions que je me pose. Parce qu'il faut d'abord que Dieu ouvre nos yeux et notre cœur sur la moisson qui nous entoure et qu'un appel naisse dans notre cœur et que notre cœur soit touché. Il nous faut un cœur touché, compatissant pour les perdus. Et il faut être passé par là. Vous savez, on ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Si un jour on n'a pas réalisé qu'on était perdu, on n'a pas quelque chose à communiquer à ceux qui ne le connaissent pas. Et comment aimer aussi des gens que nous ne connaissons pas si on n'est pas rempli de l'amour de Dieu pour eux? On ne peut pas aimer des gens qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. On aime ceux qui nous rendent l'appareil, et c'est normal. Et les non-chrétiens le vivent très bien. Ils s'aiment très bien entre eux, ils se soutiennent très bien. Mais il nous faut nous approcher de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il dépose sur notre cœur un amour et un fardeau. Parce que cet amour et ce fardeau est sur son cœur à lui. Et nous sommes ses enfants. Vous savez, on vient souvent vers Dieu pour nos besoins. Et c'est OK. D'ailleurs, c'est souvent parce qu'on est passé par des moments difficiles dans nos vies qu'à un moment donné, on est venu à Dieu. C'est parce qu'on est passé par... D'ailleurs, on nous le reproche souvent en tant que... Quand je discute avec des non-chrétiens, ils disent « Ouais, de toute façon, les chrétiens, il y a toujours un moment donné dans votre vie, vous êtes passé par un moment de fragilité, et ben du coup, le christianisme est devenu une béquille pour votre vie, et c'est comme ça que ça vous a aidé à sortir de ce moment difficile. » C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que je crois profondément que si tout va bien dans votre vie, vous avez un bon salaire, si vous gagnez bien votre vie, si vous avez des bonnes relations, vous êtes des gens qui vous aiment, vous n'avez pas besoin de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin de Dieu. Et malheureusement, il faut que notre orgueil et notre cœur qui est tourné vers le péché, qui n'est pas tourné vers Dieu naturellement, il faut parfois passer par des moments difficiles pour nous approcher de lui. Et moi, ce qui m'a fait m'approcher de Dieu à un moment clé de ma vie, c'est parce que je passais par un moment difficile. Je vivais du harcèlement scolaire, j'en ai déjà parlé ici. Je passais par un moment difficile, vraiment. Et vous savez, quand on a 15-16 ans et qu'on vit du harcèlement, c'est difficile. Parce que c'est pas un âge facile où on a besoin d'être aimé, reconnu, d'être validé, du sentiment d'appartenance à un groupe. Et voilà que je passais par ce moment difficile et que j'ai dit, mais Dieu, si tu existes, interviens dans cette situation. Je ne sais pas quelle prière j'ai fait ce jour-là, mais Dieu a bien entendu ma prière, parce qu'elle venait d'un cœur sincère. Et quand je me suis approché de Dieu, voilà que Dieu m'a transformé, m'a rempli de son amour, m'a rempli de sa présence, m'a guéri de ce que je vivais. Et le plus incroyable, c'est que lors de ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très bizarre. À la fin de ce moment-là, alors que j'étais dans la présence de Dieu, sur mon cœur est venu un fardeau pour mes copains de classe. J'ai dit, mais faut que je prie pour eux. Ils connaissent pas Jésus. Et c'est fou, mais ces personnes qui me faisaient du mal, j'ai commencé à les aimer. Mais on peut pas aimer des gens qui nous font du mal, vous êtes d'accord? C'est pas possible. C'est le contraire. Et en fait, c'est parce que c'était pas moi qui les aimais, mais c'était l'Esprit de Dieu en moi qui les aimait. Et mon besoin j'étais venu pour Dieu voir un besoin qui me solutionne. La situation n'a pas changé, ils ne sont pas devenus des anges, sont restés. Mais ma situation n'a pas changé, mais moi j'ai changé. Moi j'ai commencé à avoir de l'amour pour eux. J'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti pour eux. Au lieu d'avoir de la souffrance, même de la culpabilité ou de la haine envers eux, j'ai commencé à ressentir de l'amour pour eux. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans nos vies. Il n'y a que Dieu qui peut transformer notre cœur et transformer notre situation. Il ne va pas changer les situations autour de nous, mais il va nous changer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un cœur d'amour pour eux et à leur annoncer l'Évangile. J'ai commencé alors à leur prêcher l'Évangile. Sans prière, sans s'approcher de Dieu, sans venir à lui, notre vie ne sera pas transformée et notre entourage aussi. Sans l'action de Dieu dans nos cœurs, nous n'annoncerons pas l'Évangile. Nous annoncerons un Évangile sans amour. Nous serons témoins de rien du tout. Et nous communiquerons juste une morale. La morale est bonne, c'est bien, mais nous communiquerons juste une bonne morale. Et les gens le sentiront. Et dernier point par rapport à vraiment cette pensée de qu'est-ce qui nous empêche aussi de nous lever et d'y aller, c'est la difficulté, et je parle pour moi, hein, bien sûr, hein, c'est la peur. La peur et le manque de la puissance de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est Luc qui nous le révèle dans ce petit bout de verset où il dit « Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Alors, on préfère plus la version de Matthieu 28 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est super, génial !» Là, on a un peu moins envie, si on est l'agneau, d'aller dans une meute de loups. Vous êtes d'accord, hein? Moi, je ne sais pas, mais quand on lit ce passage que vous avez lu ce matin, entre le fait qu'il nous dit ben, « La moisson est là, mais on a besoin d'ouvriers, donc il faut aller bosser. » Ça, c'est pas très engageant, je ne sais pas pour vous, mais... On a besoin d'ouvriers. On n'a pas dit, on a besoin de grands ministères, tu vas accomplir ta destinée, tu vas ouvrir 10 églises, etc. Il dit, non, j'ai besoin d'ouvriers. Ah bon, ok, d'accord. J'aurais préféré la version qu'on entend habituellement. C'est génial, tout ce que tu vas vivre avec Dieu. Tu vas avoir une foule qui va se convertir grâce à toi. Non, ben, j'ai besoin d'ouvriers qui travaillent. Deuxième chose, moins engageante encore, je t'envoie comme un agneau au milieu des loups. Alors, je ne crois pas que le Seigneur nous envoie au milieu des loups pour être mangés. Vous êtes d'accord, hein? Mais il nous envoie au milieu des loups pour être victorieux. Et qu'est-ce que veut dire cette image? Quelle est cette image que Jésus nous donne? Il donne à ses disciples, finalement, parce qu'il est en train de leur parler à eux, hein, par rapport à la foule. Hein, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Hein, c'est au moment où il les envoie. Il est en train déjà de valider un contexte difficile. Oui, il y a des loups. Oui, il y a de l'hostilité. Oui. Et il valide aussi quelque chose. Oui, vous êtes vulnérables. D'ailleurs, ce n'est pas la brebis. Il n'a pas dit vous êtes des brebis au milieu des loups. Il a dit vous êtes des agneaux. C'est encore plus petit. C'est moins d'un an. Enfin, la fragilité, elle est totale, là. Et il est en train de leur dire vous êtes vulnérables. Parce que par vos propres forces, vous n'arriverez pas à faire mon œuvre. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes juste des agneaux au milieu des loups. Mais quelles sont les chances de survie d'un agneau au milieu des loups? Aucune. Donc on est totalement dépendant de Dieu et du Saint-Esprit. C'est ça que veut dire le texte. Soyez totalement dépendant de moi. Parce qu'au pire, vous allez juste faire de la morale, du jugement, ou encore pire, vous allez juste pas ouvrir la bouche. Parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir la bouche au milieu des loups. Donc soyez totalement dépendants de moi. Qu'est-ce que veut dire l'agneau ? C'est aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous allez avec quoi au milieu de ces loups ? Vous allez avec la puissance de Dieu. C'est lui qui est mort à la croix. Vous allez avec le sang de Jésus. Vous allez avec la puissance de Dieu. Vous allez avec l'autorité de Christ, pas la vôtre. Vous êtes juste un agneau. Vous ne rendez pas les coups pour les coups. Vous êtes dans l'attitude de Christ sacrificielle. Et là, ça devient beaucoup moins engageant. Parce qu'on veut tous avoir des grandes églises. On veut tous avoir des gens qui nous écoutent, qui se passent des miracles. Mais tout ça, c'est que des moyens. Mais le vrai sacrifice, c'est donner notre vie pour que les gens croient. Parce que c'est ce que Jésus a fait, il a donné sa vie. Et c'est parce qu'il était un agneau qu'à un moment donné, Dieu l'a élevé, il lui a donné sa puissance. Et il faut passer aussi par ce chemin-là de vulnérabilité pour que les gens soient transformés autour de nous et pour que nous soyons transformés. Et pour que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans la faiblesse, c'est dans cette attitude-là que la puissance de Dieu peut se manifester dans nos vies. C'est à l'inverse de la société et de la performance et de tout ce qu'on voit. C'est contre-culturel. Jésus te dit, va avec ma puissance, va avec ma force, va avec ma sagesse, va, comme le dit ce texte, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de peur de la part du Seigneur, mais un esprit d'amour, de force, c'est le dynamisme, la puissance, et de sagesse. Va avec mon équipement, va avec ce que je te donne. La moisson est là, mais il y a peu d'ouvriers. Mais Jésus, il n'est pas déprimé hein, quand il dit ça. Juste après, il en envoie 70 en mission. C'est Jésus qui envoie. Amen. Alléluia. C'est lui qui fait, c'est lui qui agit. Nous, on a juste à se mettre à genoux dans la prière. Nous, on a juste à connecter les gens à Jésus. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas de chiffres, on n'a rien à faire, on n'a pas à performer. Vous savez, c'est une histoire d'amour, l'Évangile. C'est un Dieu qui est dans l'invisible, qui aime des gens qui ne le savent pas encore. C'est ça, c'est notre ministère, et le seul ministère que nous avons, c'est de connecter les gens à l'amour de Dieu. On est des entremetteurs et des entremetteuses, vous savez. On aime Jésus, on le connaît, et il est super. Et on a un ami, on a des gens proches de nous qui sont super aussi, qu'on aime beaucoup. Vous voyez ? Ça change déjà la perspective de l'évangélisation. Hein. Donc, notre rôle, c'est de créer une atmosphère, créer un climat pour arriver à les connecter. Notre rôle, ce n'est pas de nous mettre entre les deux et dire... Non, c'est d'arriver à les connecter. Puis comme on aime beaucoup notre ami, la personne que nous connaissons depuis longtemps, ou je ne sais pas, ou qui a une ouverture en ce moment en elle, puis qu'on connaît très bien Jésus, ben on a cette capacité à les mettre ensemble. Et ça change tout. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Parce que nous, on n'est que des agneaux. Et on est là, au milieu de tout ça, on se dit, ouh, comment ça va se passer ? Et c'est le Seigneur qui fait. Notre ministère, et le seul que nous avons, c'est de réconcilier les gens avec le Père. Les réconcilier. Je termine avec ce verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen ! Ça commence par là, déjà. Est-ce que je suis une nouvelle créature ou pas ? Est-ce que ce matin, quelqu'un n'est pas une nouvelle créature ? On peut prier pour toi. Tu vas devenir une nouvelle créature, un nouveau départ, une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui prennent encore du temps, hein, mais il y a déjà quelque chose qui a démarré dans notre vie. Et après, au verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Et en fait, c'est le mot ministère, voilà, le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça notre message. Soyez réconciliés avec Dieu. Le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le Saint-Esprit a des paroles qu'il veut dire au travers de vous. Des choses dont vous ne soupçonnez pas. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de ton esprit. Ce matin, nous déposons cette graine que tu as déposée dans mon cœur et que tu es en train de déposer dans nos cœurs en tant qu'Église. Et nous voulons l'arroser de prière maintenant, l'arroser du jeûne, de l'écoute aussi de ton esprit. Nous voulons nous dépouiller de tout ce qui fait nos forces ce matin et être des agneaux devant toi, vulnérables. Seigneur, viens faire ton œuvre. Merci parce que chacun ici est différent. Chacun a une couleur différente, chacun a un passé différent qui peut être utilisé par toi pour toucher. Et merci parce qu'on a quand même tous le même ministère. C'est de réconcilier le Père avec ses enfants. Amen. Amen. Je vous annonce qu'on va avoir un week-end qui s'appellera Activation.